Outre votre domaine professionnel, vous avez quand même un autre domaine qui est le domaine, je vais dire, de l'écriture, de la transmission de ce qui se passe ici. Et là, quand on regarde un peu vos hobbies, je veux dire entre guillemets, il y a tout ce domaine de l'écriture. Et quand vous êtes né cette vocation d'écrire ?
Je crois pouvoir dire depuis toujours, enfin, je me souviens bien, j'avais 11 ans, j'avais une petite machine à écrire et je réécrivais justement le 21 juillet 1969, le premier pas de l'homme sur la Lune. Je m'inspirais des journaux locaux, etc. Et je retravaillais déjà un peu ces articles. Mais il me semble toujours que j'ai commencé à écrire plutôt à l'âge de 16-17 ans. Vous savez, on a un journal intime, ça commence d'ailleurs souvent comme ça. Eh bien, ce journal intime, finalement, a continué. Et je peux vous avouer que chaque jour, vraiment, j'écris. D'ailleurs, je ne saurais pas faire sans écrire. L'écriture est vraiment pour moi une nécessité. Je suis triste quand je n'ai pas écrit le jour.
Au niveau de l'écriture, on peut quand même distinguer plusieurs catégories dans ce que vous écrivez. Il y a les essais, la prose, puis il y a toutes les recherches qui concernent les saints, puis il y a aussi tout le domaine linguistique et du Picard, et puis des interventions dans des revues. Alors le Picard, c'est pour vous référer à votre culture finalement.
Voilà, exactement. Donc j'ai toujours bien aimé cet enracinement, cet ancrage tournaisien, cet ancrage dans la Picardie, dans la Wallonie Picarde. Et j'adore le concept, faut-il le dire, ça va, parce que nous sommes Wallons, mais nous sommes Picards, bien sûr, sur un plan linguistique. Et je crois que, oui, ce déclic-là vient certainement des années 80. Attention, hein, là je fais tout de suite une précaution oratoire. Bien sûr, papa et maman pouvaient dire « achlop » pour aller dormir ou lancer des mots en patois picard, mais c'était quand même pas vraiment la langue maternelle, c'était quand même pas la langue de la maison, faut-il le dire. Mais j'ai toujours été intéressé, c'est vrai, par ce patois que j'entendais, que j'appliquais moi-même dans les cours de récréation, etc. Mais le grand déclic, alors, c'était quand même Paul Mailleux. Avec lui, on a publié un premier ouvrage qui s'intitulait « Tati, un nom picard, avez-vous un nom picard ?» Et donc, on s'est préoccupé de patronymie, essayer de voir justement l'origine de tel ou tel patronyme. Mais moi, je ne me sens pas picard dans le sens d'avoir cette langue maternelle picarde en moi. Quand je pense, je ne pense pas picard. Ça, je le dis à tout le monde. Et même si depuis 16 ans, j'écris dans le Nord-Éclair, et même si depuis 16 ans, j'ai une chronique picarde dans le Nord-Éclair, moi, je ne me considère pas comme picard à proprement parler, comme avide d'études philologiques picardes et d'entendre des gens de Flaubec, d'Elzel hein, ou de Gorin parler picard, oui, mais moi ça fait pas partie de mon réflexe. Donc on commencerait une discussion maintenant en picard, je ne saurais pas la tenir, je vous l'avoue franchement. Mais donc vous avez raison, il y a tout ce pan de moi-même qui est consacré à la littérature picarde. Alors vous l'avez très bien dit Odette, c'est vrai que la deuxième facette, et ça, ça a été le pur hasard dans mon existence, je peux vous l'assurer. En 1995, on me demande d'écrire un article de 12 pages sur les saints guérisseurs, sur les saints que l'on dit thérapeutes, etc. J'écris les 12 pages en question pour Aspect du Hainaut occidental. Et ensuite, indépendamment de moi, je peux vous l'assurer, je suis pris dans un engrenage. Parce que du bar en 95, c'était pas les saints, d'accord ? Ça va, et ça je le dis et je le répète, et je trouve qu'il faut pouvoir l'énoncer, quoi, hein, en toute sincérité, en toute netteté. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu publication d'un premier volume, d'un deuxième, puis de 5, puis de 10 au total. Mais attention, maintenant, je ne crache pas du tout dans la soupe, ni quoi que ce soit, hein, on est bien d'accord. Et les saints me passionnent et toutes ces études géographiques, historiques, tout ce que les saints peuvent m'apporter, même sur un plan spirituel, ça je le retiens et pas un petit peu, hein, on est bien d'accord. Mais c'est pour dire que la vie a de ces hasards véritablement pas possibles. Voilà, c'est comme ça. Puis l'entrée alors à la RTBF avec... dans un premier temps, Jean-Pierre Debouc, un an d'émission, chaque lundi soir, entre 17 et 18 heures, c'était l'almanach de la semaine, donc je devais rédiger obligatoirement 5 chroniques, 5 rubriques, dans le cadre de cette émission-là, on passait en revue justement les saints de la semaine, puis comme dans un almanach, on parlait de tout, de rien, on parlait des rites, des rituels, du folklore, des traditions, du picard... Des bègues de l'histoire, des nains de l'histoire, enfin vraiment un peu de tout.
Alors nous avons parlé un peu de vos écritures, mais vous avez utilisé un autre canal, c'est le canal de la radio. Qu'est-ce que ça vous apporte de plus, ce canal oral finalement ?
Ah, je crois que ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte d'abord sur le plan de l'écriture, ce soin, c'est-à-dire cette écriture orale. J'écris, je suis devant mon ordinateur, mais je dois lire obligatoirement et tout haut, bien sûr, les phrases que je vais prononcer. Je dois entendre la musique, je dois entendre la musicalité de tout ce que je vais dire sur les antennes de la RTBF, etc. Il faut que je pèse, que je pose tout ça pour que, justement, il y ait des intonations, pour qu'il y ait justement du rythme, oui.
Ce travail oral, on est parti dans l'autre sens, puisque d'un travail oral, on est arrivé à un travail écrit,
oui.
Qui est votre livre dont on va parler un peu, qui s'appelle « Saint Tradition et Bon Baiser »,
voilà.
Pour faire référence à l'émission de Guy Lemaire, « Bon Baiser de chez nous ». Alors, le contenu, finalement, donc c'est le rassemblement de tous ces petits billets, ça concerne les saints, ça concerne aussi des fêtes.
Tout à fait.
Où trouvez-vous toute cette matière ?
On refait un petit peu l'historique. C'est vrai, toute cette année passée avec Jean-Pierre Debouc, en octobre 2001, alors, Guy Lemaire s'intéresse à ma petite personne et me contacte en me disant « Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir justement une deuxième séquence alors sur les antennes de la RTBF ?» Je dis « Bah oui, effectivement, pourquoi pas ?» Et alors, en fait, ce sont des séquences de 3 minutes chaque samedi matin, en effet. Donc, ça veut dire que je n'ai pas rédigé et enregistré 62 séquences, mais quelques 250 jusqu'à présent. Donc, le livre comprend 62 séquences. Donc, c'est déjà justement un petit tri, une petite sélection par rapport à tout ce que j'ai pu enregistrer donc pour Guy Lemaire. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est du 1er janvier à la Saint-Sylvestre. Ça veut dire qu'il y a toute une série de fêtes religieuses et profanes. Alors, maintenant, vraiment, pour répondre à votre question, eh bien, en fait, puisqu'il s'agit d'un travail hagiographique de plus de 10 ans maintenant, ben c'est vrai que pour les saints, ben il y a quand même pas mal de fichiers dans mon ordinateur. Alors j'ai travaillé pour mes autres livres avec Pierre Gransard, par exemple, qui est un collectionneur, un restaurateur de statues. Il a aussi énormément d'images pieuses, donc je peux glaner les informations là. J'ai travaillé à un moment donné pour Radio Jebusy, donc c'est véritablement votre coin, votre endroit, votre région des collines. Et avec les enfants de l'école primaire d'Anvin, nous sommes allés dans le home de Frane et on a passé des journées entières à faire comme vous le faites maintenant, finalement, enregistrer les personnes âgées. Et les personnes âgées disaient « Ah oui, mais moi de mon temps, on disait Saint-Antoine de Padoue, grand voleur, grand filou, rendez-nous ce qui n'est pas à vous. » Et on prenait note de tout ça avec les enfants. Vous voyez, donc c'est un bagage qui me vient de là aussi. Et la conférence sur les saints guérisseurs, excusez-moi, mais si je ne l'ai pas donnée 150 fois, je ne l'ai pas donnée une seule fois. Et alors chaque fois, vous pensez bien, au terme de la conférence, au terme de l'animation, il y a quelqu'un pour dire « Ah, mais monsieur Dubard, vous avez oublié la petite chapelle qui est située à 200 mètres de chez moi. » Et Jean-Luc Dubard, alors, prend note, effectivement, des références. Parce que là aussi, vous savez, c'est tout à fait cruel. Dans ce travail lié au saint guérisseur, je parle justement des motifs d'invocation, une brève biographie du saint, comment reconnaître le saint dans une église, mais les lieux aussi d'invocation. Et là, j'ai peut-être accompli des milliers de kilomètres, mais il y a encore des milliers de kilomètres qui devraient être accomplis, justement, pour être le plus exhaustif possible. Donc, mes sources, c'est ça. Ce sont des témoignages oraux, des témoignages livresques, tous les livres qui ont pu être publiés, et alors Internet. Ça, c'est vrai que pour moi, Internet est un outil tout à fait extraordinaire. On peut apprendre énormément de choses sur Internet. Par exemple, vous avez un saint à 2 pas de Bazècle. Vous avez un petit village qui s'appelle Wadelincourt. Et à Wadelincourt, vous avez saint Charalampe. D'accord ? C'est tout à fait extraordinaire quand même. Eh bien, Charalampe est présent uniquement dans 2 paroisses de Belgique. Et j'ai retrouvé Charalampe alors en Australie, vous voyez, et en Roumanie, et en Hongrie, effectivement, il n'est pas présent ailleurs. Donc, vous voyez, Internet peut nous aider énormément à accomplir ces recherches-là. Mais maintenant, 3 minutes pour Guy Lemaire, ça veut dire 3 heures. Ça veut dire 3 heures de préparation, ça veut dire ensuite partir à la radio. Et ici, je suis magnifiquement bien entouré parce qu'il y a plein de techniciens autour de moi. Mais maintenant, mon petit statut, c'est d'aller à RTBF Mons, d'entrer dans une cellule. Je suis face à l'ordinateur avec tout le stress et l'angoisse que ça peut comporter, encoder soi-même et face au micro, soit enregistrer les 3 minutes en question. Donc voilà un peu aussi le travail du chroniqueur. Mais j'apprécie. Parce que je trouve que je donne cours au niveau du graduant en communication, et si je ne sais pas moi-même ce qu'est la presse écrite, si je ne sais pas moi-même ce qu'est la presse orale, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, a fortiori dans le cadre d'un cours de philosophie.
Voilà. Mais non, je voulais revenir au livre. Je le compare un peu à un almanach.
Oui.
On va de jour en jour, donc oui, de janvier à décembre. Les saints, ils sont là, vous racontez leur histoire, vous racontez leur pouvoir. Ce qu'on oublie souvent, que les saints nous ont permis aussi d'avoir quelques jours de congé. Ils rythmaient notre calendrier.
Tout à fait.
Or, il semble que maintenant, ça diminue un peu, ce pouvoir des saints, entre guillemets. Puisqu'on ne lit plus nécessairement certaines vacances à certaines fêtes.
C'est vrai.
Comment vous voyez ce changement ?
Je vois peut-être deux aspects. D'une part, il me semble effectivement que les saints ont été relégués. Après le Concile Vatican II, 1962-1965, on assiste à une religion très abstraite, très désincarnée. Et donc, on ne veut plus de saints dans les églises. Les saints sont relégués dans les sacristies, dans les greniers, etc. On va détruire des chapelles aussi. Donc ça, c'est un premier mouvement. Mais dans ce mouvement-là, moi, je constate justement un contre-mouvement, à savoir, finalement, on n'a jamais autant parlé de saints, me semble-t-il, dans une certaine mesure. Et je vois... Je ne sais pas si c'est heureux ou malheureux, je ne me prononce pas là-dessus, mais je vois que les saints, au contraire, réintègrent les églises. On retrouve une vieille statue et on va réintégrer la statue dans l'église. On va restaurer et rénover des chapelles. On va en détruire aussi, ça ne fait aucun doute. Mais enfin, il y a ce mouvement-là également. D'un autre côté, moi, quand je regarde le journal, quand j'ouvre le Nord-Éclair ou le Courrier d'Esco, je vois que les musiciens fêtent encore et toujours leur Sainte-Cécile. Je vois que la Saint-Martin existe bel et bien dans nos régions, etc. Et il me semble, par exemple, au phénomène, par rapport au phénomène Halloween, qui est un OGM religieux, si vous me permettez l'expression, je vois quand même que Halloween, me semble-t-il, est en train de disparaître et que nos fameuses lumrottes vont réapparaître. Parce que ça, c'est notre origine. Ça, ce sont nos enracinements. Mais exporter comme ça Halloween me semblait pas forcément intéressant. Et je crois que les gens l'ont compris, en tout cas. Oui. Voilà. Alors, la part des saints, oui, d'une part, on assiste à une déchristianisation, ça ne fait aucun doute. Mais d'un autre côté, c'est ça que je voulais dire après le recul de Vatican II, c'est que les gens ont besoin de voir, de sentir, de toucher. Et les saints, justement, ce sont les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Moi, j'aime bien parler en termes d'auxiliateurs. Ils sont auxiliateurs, ils sont intermédiaires, ils sont intercesseurs entre Dieu et les hommes. Bien sûr, si on tombe dans le travers de la superstition, personnellement, ça ne m'intéresse pas non plus, d'accord ? Si on est croyant, et ce n'est pas du tout une obligation, seul Dieu est saint, seul Dieu est trois fois saint, et la sainteté de l'homme n'a aucune commune mesure par rapport à la sainteté de Dieu, faut-il le dire, d'accord ? Et ça, il faut le comprendre. Moi, ça me désole toujours quand je vois des personnes entrer dans une église et se diriger vers l'autel latéral dédié à saint Antoine de Padoue sans avoir un regard vers le Saint-Sacrement, par exemple. Donc, c'est oublier que seul Dieu est saint, mais non, on va alors sanctifier, on va déifier un personnage qui est tout à fait humain, avec ses carences, avec ses imperfections, avec ses finitudes, etc. Quoi.
Alors, je me suis permise de prendre d'un côté le journal Dimanche, de l'autre côté votre livre, et puis je me suis rendu compte que c'est vrai que parmi les saints que vous citez, il y en a beaucoup qui sont patrons d'églises aussi au pays des collines.
D'accord.
Alors, Saint-Martin, par exemple, voilà. Frane, Montreuil-Mautier, Saint-Nicolas Eudgiaoua Tripon, Saint-Pierre Elzel-Lessine. Par contre, je n'ai pas trouvé Saint-Luc de Flobecq. Mais je me suis dit que quelque part, ça concernait quand même Flobecq, puisqu'on y trouve Saint-Antoine l'ermite, au cochon, qui donne cette fois-ci un autre mot qui est arrivé, qui est une fête chez nous, qui sont les Antoniades.
Exactement.
Donc, très important aussi, ces fêtes sont des rassemblements conviviaux.
Il paraît qu'à un moment donné, c'était en 1999, on aurait pu en parler, on ne sait pas tout dire à la seconde seconde, j'ai commis un CD à votre bonne chantée sur les saints de la fête, les saints qu'on boit, comme on dit en patois picard. Et justement, donc Saint-Hubert, Sainte-Cécile, Sainte-Catherine, Saint-Éloi, Sainte-Barbe, Saint-Nicolas et Saint-Sylvestre. Moi, j'adore, c'est vrai, j'adore les saints de la fête, j'adore les saints qui rassemblent. Et justement, et là, je réponds encore à votre question, je trouve qu'au niveau des corporations, au niveau des confréries, on y revient de plus en plus. Et il faut voir les boulangers-pâtissiers fêter Saint-Aubert, fêter Saint-Honoré, enfin, etc. Je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui se liguent pour retrouver cet esprit des compagnons du Moyen-Âge, ces confréries du Moyen-Âge. Oui. Alors bon, je ne savais pas tout dire non plus, hein, avec Saint-Luc, effectivement, veuillez m'excuser, mais j'adore. D'ailleurs, vous pourriez entrer chez moi maintenant, d'accord ? Eh bien, vous allez voir dans mon couloir, Saint-Antoine et Spourchaud, bien sûr, Saint-Antoine et son cochon. Ben non, parce que j'apprécie vraiment beaucoup Saint-Antoine, qui aurait vécu 106 ans. Quand on vit dans un désert, effectivement, en dette, hein, on vit bien, on n'a pas de tracas, on n'a pas de soucis, effectivement. Enfin, il a été tenté, hein, il a été tenté.
Mais il a résisté.
Mais il a résisté à la tentation. Il n'a pas mangé le plat de viande cuisinée qui était du porc, et c'est d'ailleurs pour ça, entre autres, qu'il est représenté avec son cochon. Oui.
Alors, dans toute cette somme de saints, est-ce qu'il y en a un qui, pour vous, vous titille un peu plus, auquel vous êtes plus sensible? Quel est celui que vous préférez, finalement?
Eh bien, mais je reviens à cette idée-là. Vous entrez chez moi. Deux dessins de Robert, justement, tirés du bouquin, parce qu'on n'a pas encore parlé, malheureusement, de Robert Roland, qui habite à 200 mètres d'ici et qui est l'illustrateur. En fait, c'est le deuxième livre que je réalise avec Robert, puisqu'on avait fait une Saint-Nicolas expliquée au plus grand. Et quand on ouvre les pages du livre, on voit effectivement certains dessins tendancieux. Et donc, on préférait adresser ce livre-là au plus grand. J'ouvre une autre parenthèse, c'est que justement, j'essaie tout le temps de glisser un maximum d'humour, vous savez, en tout cas j'essaie, je ne sais pas si les gens le perçoivent, parce que si Dubar égale le catho, ou si Dubar égale l'intégriste, alors là, pas du tout, pas du tout. Et moi, j'ai souvent horreur, hein, je le dis franchement, quand on m'assimile justement de façon malheureuse à Dubar égale saint. Parce que justement, je fais des études sociologiques sur ce plan-là, j'essaie de répertorier les saints guérisseurs, etc. Mais maintenant, vous dire que moi, je prie Sainte-Apolline chaque fois que j'ai mal aux dents, mais non, je préfère prendre rendez-vous avec ma dentiste et on règle le problème, etc. D'accord ? Enfin, c'est une petite parenthèse, mais qui me semble tout à fait essentielle, d'accord ? D'accord, pour qu'on ne dise pas du bar égal saint, et malheureusement, parfois, on le fait trop vite. Donc, on avait écrit un bouquin qui n'était pas dénué d'humour, du moins je l'espère, la Saint-Nicolas expliqué au plus grand. Et alors, ici, donc, 62 dessins, 74 en fait, au total, puisqu'il y a un dessin par mois pour ponctuer un peu tout ça à la façon d'intercalaire. Et donc, avec Robert, oui, vous entrez chez moi et j'ai alors agrandi, il les a agrandis pour moi, plus exactement, il les a coloriés pour moi. Vous avez justement les deux Saint-Antoine. Vous avez Saint-Antoine et son cochon, et juste à côté, alors, vous avez Saint-Antoine de Padoue, alors que je citais tout à l'heure. Et Saint-Antoine de Padoue, vous allez voir le dessin en question, il est sur une cheminée, mais il est retourné. Parce que ça fait partie de la pratique, justement, des personnes. À partir du moment où elles ont perdu quelque chose, elles retournent Saint-Antoine, elles boudent littéralement Saint-Antoine, d'accord ? Et à partir du moment où l'objet est retrouvé, alors Saint-Antoine peut réintégrer l'âtre familial. Il y a une autre notion liée à Saint-Antoine de Padoue, c'est que mon beau-frère est portugais. Emilio Norinho da Silva. Or, Saint-Antoine de Padoue est originaire de Lisbonne, d'accord ? Et j'ai eu l'occasion de visiter la maison natale de Saint-Antoine là-bas au Portugal. Et en fait, Saint-Antoine est prié, c'était cette semaine d'ailleurs, par les Lisboètes, non pas pour récupérer un objet perdu, mais pour les fiancer en vue d'un bon mariage. Voyez-vous, alors mon beau-frère portugais me dit toujours, ah, c'est pour ne pas perdre un objet, mais un objet amoureux, alors cette fois-ci.
Qui est le plus important.
Voilà.
Eh bien justement, donc, ces dessins de Robert Roland, c'est vrai qu'ils ont un petit côté coquin.
Oui, tout à fait.
Loin de l'image religieuse,
ah,
finalement,
oui,
très stéréotypée.
Ah oui, exactement.
Et vous avez parlé de votre collaboration, vous avez parlé de beaucoup plus de dessins finalement que ceux qui se retrouvent dans le livre. Est-ce qu'il y a eu des censures ?
Exactement. Il y a eu des censures et alors c'est vrai qu'on a présenté le livre à deux reprises. La première fois c'était à l'école des frères à Tournai, puisque vous l'avez dit, je sors de l'école des frères. La deuxième fois c'était à deux pas d'ici, donc c'était au centre culturel, plus exactement à la maison du parc, mais c'était organisé par le centre culturel du pays des collines. Et on a montré les dessins censurés de Robert. Je le dis peut-être un petit peu là sur antenne, eh bien à un moment donné, parce que je connais quand même un peu mon public, hein, de cette séquence de Guillemer, séquence qui passe à 7h10, c'est quand même un certain public. Eh bien, à un moment donné, Robert m'avait dessiné un Christ bien barbu, c'est la dernière scène, il est là devant son Orval, le Christ, et les apôtres sont en citrouille tout autour de lui. Donc c'était pour parler à la fois de la dernière scène et d'Halloween, ça me semblait peut-être un peu fort. Et le deuxième, je n'ai pas hésité à le dire comme ça sur antenne, ça avait trait à Sainte Bernadette Soubirous. Alors on voit la petite Bernadette devant la grotte de Massabielle en train de bel et bien prier. Oui, mais dans le dessin originel de Robert, vous aviez un curé qui agitait la Vierge Marie derrière, d'accord, par derrière. Donc c'était un peu fort, me semble-t-il, donc j'ai préféré supprimer ce dessin. Mais d'un autre côté, ça fait partie du jeu, voilà. Il me soumet son dessin, je dis non Robert, là tu vas vraiment trop loin, il y en a encore d'autres qui ont été supprimés comme ça.